VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 26 juillet 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, deux autres casques bleus marocains ont été tués hier à Bangassou.
Au Gabon, des blessés lors d'un rassemblement hier, lors du retour de l'opposant Jean Ping à Libreville, démenti des autorités.
Au Sénégal, l'opposition accuse le gouvernement de n'avoir pas produit assez de cartes d'électeurs pour les législatives de dimanche.
Au Mali, des djihadistes présumés ont tué au moins 4 civils touaregs hier dans le nord-est, près de la frontière avec le Niger.
Ici à Washington, la Chambre des représentants a adopté hier de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, deux autres casques bleus marocains ont été tués mardi à Bangassou, dans le sud-est du pays, et ce deux jours après la mort d'un autre soldat de la paix. Selon la MINUSCA, les deux casques bleus du contingent marocain ont été tués dans une embuscade tendue par de présumés anti-balaka, et un autre a été légèrement blessé.
Au Gabon, une dizaine de personnes ont été blessées hier à Libreville pendant la dispersion d'un rassemblement organisé à l'occasion du retour au Gabon de Jean Ping, le rival du président Ali Bongo Ondimba. C'est ce que rapporte l'AFP. Pour sa part, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il n'y avait eu aucun mort et aucun blessé lors de cette manifestation. M. Ping conteste depuis des mois la réélection du président Bongo, qui a été confirmée le 23 septembre 2016 par la Cour constitutionnelle.
À Dakar, au Sénégal, la marche de l'ancien président Abdoulaye Wade, tête de liste d'une des coalitions de l'opposition pour réclamer les cartes d'électeurs pour les législatives de dimanche, a été dispersée par la police. La manifestation avait été interdite par le préfet de Dakar. Selon notre correspondante, Seydina Abagay, Maître Wade a confié que la finalité de son combat n'était pas de siéger à l'Assemblée nationale s'il était élu.
Moi, je me suis prêté à l'invitation de mon parti et de notre coalition Watou Sénégal pour être élu. Évidemment que je serai élu, mais ma vocation n'est pas d'être élu, ni même de redevenir président de la République. C'est moi, tel que je suis, qui fais ma campagne électorale pour gagner, mais pour gagner pour une coalition dont mon fils est un candidat à la présidence de la République.
Abdoulaye Wade annonce ainsi qu'il n'occupera pas de place de député à l'Assemblée nationale. Pour lui, le combat acharné qu'il mène contre le régime du président Macky Sall sert à redynamiser ses troupes en vue de la présidentielle de 2019. Wade, 91 ans, est toujours un farouche opposant. Pour lui barrer la route, les autorités ont sorti les gros moyens. Ce mardi 24 juillet, un impressionnant dispositif sécuritaire a été mis en place pour empêcher la tenue du grand rassemblement qu'il voulait faire au centre-ville de Dakar. La marche, qui devait aller de la place de l'indépendance au ministère de l'Intérieur en passant par le palais de la République, a été écourtée par les grenades lacrymogènes de la police nationale. Pour Abdoulaye Wade, l'important n'est pas d'être député, mais de préparer convenablement la présidentielle de 2019 à laquelle son fils est candidat. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Au moins 4 civils touaregs ont été tués hier dans le nord-est du Mali par des djihadistes présumés près de la frontière avec le Niger. Le point avec Eddie Isango.
Les victimes ont, selon un élu de Meneka, été attaquées pendant leur sommeil. Un enfant et des personnes âgées ont été tuées. Un agent de sécurité affirme que c'est le groupe du djihadiste Adnan Abou Walid Sahraoui, actif dans cette zone, qui a perpétré cette attaque. Il y a une semaine, les corps de 8 soldats ont été retrouvés après une embuscade près de la frontière avec le Niger. Lundi après-midi, un véhicule de la garde nationale a sauté sur une mine entre Gaoué et Gossi, plus à l'ouest, selon un communiqué de l'armée malienne. Au moins un mort et 4 blessés ont été enregistrés. L'armée souligne que ce tronçon de route est devenu un champ de mines et de braquages. Depuis 2015, des attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et les phénomènes gagnent les pays voisins, en particulier les Burkina Faso et les Niger.
En Côte d'Ivoire, 5 hommes, dont 3 militaires, ont été arrêtés en relation avec l'attaque de l'école de police d'Abidjan. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Deux sergents d'une force mixte police-gendarmerie armée et un militaire d'un bataillon blindé ont été arrêtés. En plus d'eux, deux civils ont été mis aux arrêts. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, a refusé de dévoiler la date, le lieu et les circonstances de ces arrestations. Il a seulement indiqué que les images vidéo récupérées à l'école de police ont aidé l'enquête de manière déterminante. Il a assuré que toutes les armes et les munitions dérobées par les assaillants ont été récupérées. L'attaque a été perpétrée deux jours avant l'ouverture des Jeux de la Francophonie. Un membre des forces de sécurité a été tué et un autre blessé dans les fusillades. Près de 10 000 militaires, gendarmes et policiers sont mobilisés pour la sécurité des Jeux qui se déroulent jusqu'au 30 juillet. C'est le premier grand événement organisé par la Côte d'Ivoire depuis le retour à la paix en 2011, après une décennie de troubles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté à une majorité écrasante, 419 voix contre 3, de nouvelles sanctions contre la Russie en réaction à l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de 2016. Elle a renforcé par la même occasion ses pouvoirs contre une éventuelle levée de ces sanctions par le président Donald Trump. Une version précédente du Sénat avait bénéficié du même genre de soutien, 97 voix contre 2, ce qui garantit que les deux chambres pourront passer outre un éventuel veto présidentiel. Ces sanctions affectent aussi l'Iran et la Corée du Nord.
Par ailleurs, le Sénat américain a décidé hier, mais de justesse, d'ouvrir le débat sur l'abrogation d'Obamacare, la loi sur l'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama. Des détails avec John Lyndon.
C'est une première victoire pour le président Donald Trump. Il avait soumis les sénateurs républicains de taire leurs différences et d'avancer sur cette réforme enlisée depuis des mois. Les sénateurs, dont John McCain, souffrant d'un cancer du cerveau, ont finalement voté par 50 voix pour, 50 voix contre, le vice-président Mike Pence venant apporter la 51e voix décisive, comme le lui permet la Constitution en cas d'égalité. Il s'agit d'ouvrir formellement les débats sur l'abrogation de la loi démocrate de 2010. C'est un vote de procédure qui va être suivi de plusieurs jours de discussions dans la Chambre haute du Congrès sur un dossier qui divise la majorité républicaine depuis des mois. Le président américain, à la suite de ce vote qu'il a qualifié de grand pas, a salué la bravoure du sénateur John McCain et rappelé qu'il était enfin temps d'en finir avec Obamacare.
D'autre part, Donald Trump, de toute évidence en colère, a poursuivi hier sur Twitter son offensive contre ceux qu'il perçoit comme des ennemis, offensive marquée par une attaque sanglante contre son propre ministre de la Justice, Jeff Sessions. Cette attaque cinglante lui a valu des condamnations, même celles des leaders du Parti républicain et des médias conservateurs, qui lui sont d'habitude très fidèles. M. Trump a publiquement critiqué M. Sessions pour s'être récusé dans l'affaire russe.
Un patrouilleur de l'US Navy dans le golfe Persique a tiré hier des coups de semonce contre un vaisseau des gardiens iraniens de la Révolution qui s'était approché dangereusement. La marine américaine a qualifié le comportement des Iraniens de non conforme aux règles de conduite maritime internationalement reconnues, créant un risque de collision.
Un groupe de colons israéliens a pris le contrôle mardi d'une maison qu'ils disputent aux Palestiniens dans la ville d'Hébron en Cisjordanie occupée. Selon une porte-parole militaire israélienne, des dizaines d'Israéliens sont entrés dans un bâtiment dont l'accès est interdit à proximité du tombeau des patriarches à Hébron et les forces de sécurité sont actuellement sur place. Le tombeau des patriarches et la mosquée d'Ibrahim pour les musulmans.
Cet incident d'Hébron coïncide avec les tensions autour de l'installation de détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem, tensions qui ont dégénéré en affrontements meurtriers ces derniers jours. Israël a enlevé les détecteurs controversés mardi, mais les Palestiniens continuent de boycotter hier le site. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco Blanche Sanou.
La gomme arabique est en pleine croissance dans les pays francophones de la zone sahélienne, à commencer par le Mali. Les qualités de ce produit issu des acacias sont aujourd'hui utilisées à 80% par l'industrie agroalimentaire, avec une exploitation qui a progressé de 2% pendant plus de 15 ans, de 80 000 à 112 000 tonnes en 2016. Bénéficiant d'une stabilité de prix, la gomme arabique devrait voir son exploitation renforcée dans les pays africains. Le président et fondateur du site de e-commerce Alibaba, le chinois Jack Ma, a annoncé la création d'un fonds de 10 millions de dollars pour les jeunes entrepreneurs africains. Lors de sa première tournée africaine, l'entrepreneur compte travailler avec la CNUSSID pour faire venir 200 entrepreneurs africains en Chine pour apprendre d'Alibaba. Jack Ma a aussi annoncé qu'il prévoyait de développer un partenariat avec des universités africaines pour qu'elles offrent des formations aux technologies liées à Internet, à l'intelligence artificielle et au e-commerce. En Gambie, le nouveau gouvernement veut lancer une opération de modernisation du port de Banjul, moteur de son économie. Pour le financement, le directeur du port, Abdoulaye Tambédou, a déjà reçu des offres étrangères chiffrées à plusieurs centaines de millions d'euros. Construit en 1972, le port de Banjul permet de desservir la Casamance, une partie de la Guinée et le Mali, plus rapidement que les autres ports de la région. Selon le professeur de sciences économiques Moumoudou Fané, le port va permettre à la Gambie de s'ouvrir sur le monde et développer son commerce extérieur.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le troisième tour des éliminatoires de la Ligue européenne des champions se poursuit aujourd'hui.
Tout à fait, Idrissa, la rencontre Nice-Ajax-Amsterdam est attendue. On peut aussi retenir entre autres affiches Dynamo de Kiev, Young Boys de la Suisse ou encore FC Vitorul de la Roumanie contre l'Apoel Nicosie. Le Celtic sera aux prises avec Rosenborg. En rappel hier, le CSKA Moscou a pris une nette avance sur AEK de la Grèce grâce à sa victoire 2-0. Service minimum à domicile par contre pour le Slavia de Prague 1-0 devant le Baté Borisov de la Biélorussie. 0-0 entre Karabakh de l'Azerbaïdjan et le Sheriff Tiraspol de la Moldavie.
La Côte d'Ivoire s'est bien illustrée hier au jeu de la francophonie à Abidjan.
Effectivement, les éléphantos sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale en football dans le groupe A. Ils ont disposé du Liban 2-0. Ce qui rend d'ailleurs anecdotique la victoire du Burkina sur la Guinée 2-1. En athlétisme, les Ivoiriens ont également fait forte sensation en s'imposant aux 4 x 100 mètres relais chez les hommes, tout comme chez les dames, avec une star bien attendue, Marie-Josée Talou, qui a répondu présente. Le Français Loïc Erkerak, lui, a décroché la médaille d'or aux 110 mètres haies chez les hommes en 13 secondes 74. La Burkinabé Mat Kuala fait pareil chez les dames en 13 secondes 30. Aux 3000 mètres steeple dames, la Marocaine de 22 ans Fadwa Sidi Madane remporte la course en 9 minutes 44 secondes. La championne d'Afrique camerounaise Auriel Ndongo a fait la loi au poids 17 mètres 98 de jet, laissant sa plus proche rivale la Gabonaise Karim Mekamandong à plus de 2 mètres.
La CAF a réaménagé le calendrier de la phase à élimination directe des compétitions interclubs.
Oui, initialement prévu du 8 au 10 septembre, les quarts de finale allés de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération se dérouleront désormais le week-end du 15 au 17 septembre. Les matchs retour sont prévus une semaine plus tard. Quant au match aller des demi-finales, il reste maintenu entre le 29 septembre et le 1er octobre. Mais les rencontres retour ont été décalées d'une semaine et se dérouleront désormais entre le 20 et le 22 octobre au lieu du 13 au 15. Les dates des finales demeurent inchangées, 27 au 29 octobre pour l'aller et 3 au 15 novembre pour le retour en Ligue des Champions. Quant à la finale de la Coupe de la Confédération, la phase aller est prévue entre le 17 et le 19 novembre et le retour entre le 24 et le 26 novembre.
Tentative folle de transfert en football, Neymar, oui, mais n'oublions pas Mbappé.
Il n'y a pas que l'avenir de Neymar qui agite le mercato. Le quotidien sportif espagnol Marca a relancé hier le feuilleton Kylian Mbappé. Le journal a annoncé un accord de principe entre le Real Madrid et Monaco pour le transfert du prodige français. ce que les monégasques se sont empressés de démentir. Ce sont les sommes qui donnent le tournis. Marca évoque un montant avoisinant 180 millions d'euros, s'il vous plaît, pour un attaquant qui n'a que 18 ans et qui compte moins de 20 titularisations en Ligue 1 française.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, s'est ouvert mardi à N'Djamena un symposium régional sur le thème Islam, dividende démographique et bien-être familial. C'est une initiative du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et aussi avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. Compte rendu d'André Kodmajingar.
Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad convoque à N'Djamena ce séminaire de réflexion de trois jours sur une nouvelle stratégie d'approche pour la lutte contre le terrorisme, lequel symposium a vu la participation des leaders religieux musulmans des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et d'ailleurs.
Les leaders religieux, c'est comme l'énergie atomique. Elle peut faire très mal, mais elle peut faire aussi très très bien. Aujourd'hui, le contexte mondial, le contexte africain, incite à ce qu'on utilise la force des leaders religieux, à la fois pour les actions de développement, mais aussi pour la lutte contre le terrorisme. Et il faut absolument commencer à mobiliser, à trouver une autoroute susceptible de rassembler le maximum de leaders religieux. Parce qu'encore une fois, pour lutter contre le terrorisme, les religieux sont incontournables.
Lui, c'est Issel Mouhoud Abdelkader, ancien ministre mauritanien et expert en mobilisation des leaders religieux pour le développement et la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre vise non seulement à lever l'équivoque du mythe autour de l'espacement de naissance, qui, selon certains leaders musulmans, est contraire à l'esprit du Coran, mais aussi et surtout une invite à tous les leaders religieux musulmans à promouvoir le droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, Mabinge Ngom, explique le choix porté sur le Tchad pour abriter une telle rencontre.
C'est dans cette région du bassin de la Tchad que nous avons les taux de fécondité les plus élevés. Les femmes font entre 6, 7 et 8 enfants. Et si vous avez deux enfants, vous n'arrivez pas à les amener à l'école, vous en faites cinq autres, je ne pense pas que cela contribue au bien-être de la famille qui est au cœur de l'islam. Je le dis, je le répète, entre la République démocratique du Congo, par exemple, et le Nigeria, nous avons 15 millions d'enfants qui sont dans la rue. Donc si quelqu'un a besoin de recruter des gens à manipuler, mais ils vont les prendre dans la rue.
Madame le ministre de la Santé publique, Garbadna Carmel Soukatra, a déclaré quant à elle que la croissance démographique non maîtrisée est une véritable bombe à retardement. Donc il faut casser le thermomètre, a-t-elle insisté.
Il y en a qui se barricadent devant des dogmes qui ne sont même pas en adéquation avec le livre et qui perturbe la vie humaine et sacrée en ce sens qu'on doit connaître son corps pour mieux le maîtriser. Éviter que nos enfants aillent contacter une grossesse et aller se cacher pour un avortement et mourir.
André Kodouma Djingar N'Djamena, VO Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, la CDAO et son objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad veulent faire baisser de moitié le taux de fécondité le plus élevé au monde. Pourquoi un tel projet? Quels enjeux économiques et sociaux? À l'horizon 2050, un continent en majorité composé de jeunes, quel avenir pour eux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, ennemis dans la crise qui divise la Libye, se sont rencontrés hier en région parisienne sous l'égide d'Emmanuel Macron avant l'adoption d'une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à un cessez-le-feu et à des élections rapides pour sortir leur pays du chaos. Au micro d'Ekia Badou, réaction d'Abdelkader Kadoura, professeur de droit constitutionnel à l'université de Benghazi.
N'importe quelle rencontre entre les chefs libyens, les personnalités libyennes, ça c'est très bien pour la Libye et les Libyens. Elle l'accueille avec tout le souhait de trouver une solution d'une sortie de crise où on vit actuellement en Libye. C'est un bon signal, je trouve.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une faisabilité? Quelle est la valeur du cessez-le-feu dans un pays où des milices ne sont pas totalement maîtrisées?
Vous savez, les milices, elles sont régionalisées actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des régions du Tripoli, il y a des milices, à partir de Misrata jusqu'à Tripoli. Et bien, il y a des milices aussi un petit peu au sud de la Libye. En cas de non-respect de cessez-le-feu-là, qui va obliger les gens de respecter ces cessez-le-feu. Donc ça, c'est le problème. À côté de l'armée, je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce que c'est une armée, il peut arrêter un cessez-le-feu immédiat. Mais de l'autre côté, il y a des petits groupes partout dans le désert ou dans les villes. C'est très difficile à maîtriser.
Vous qui êtes sur place, est-ce que vous pensez que l'avant et l'après Kadhafi a changé les choses?
Vous savez, c'est un système très militarisé à l'époque. Kadhafi, c'est un dictateur. Il a pu imposer sa volonté partout en Libye, hein, par la peur et par la force. Après l'éclatement du 7 février 2011, bon, ça c'est un pays aussi du tiers-monde, il ne faut pas oublier. Hein. Chacun, il veut s'imposer. Moi, je suis là. Et dans l'absence de trouver un média, un système de remplacer le Kadhafi, voilà, on a tombé dans le désordre. Puis, mais maintenant, je pense, avec un petit peu d'aide, on peut s'arranger. Le côté de l'Est de la Libye, moi, je suis à Albeza. Vous m'avez téléphoné, je suis à Albeza actuellement. Mais je suis de Benghazi. Je suis venu ce matin à Albeza parce que j'ai une réunion pour l'Assemblée constituante de la Libye. Mais on peut prendre la voiture à peu près de Sirte, avant Sirte, jusqu'à la frontière égyptienne. Il n'y a aucun problème de sécurité actuellement.
Abdelkader Kadoura, professeur de droit constitutionnel à l'université de Benghazi. Une enquête pour corruption vise le groupe minier anglo-australien Rio Tinto. Le Serious Fraud Office, à l'initiative de cette procédure lancée au Royaume-Uni, a étendu les investigations aux employés du groupe et ses autres associés. Rio Tinto a promis de coopérer pleinement. Joint par Eric Manirakiza au Conakry, le journaliste spécialiste des mines, Akumba Diallo.
Rio Tinto est accusé d'avoir versé un montant d'environ 10-15 millions de dollars à un Français qui a été intermédiaire avec la Guinée dans le cadre de la négociation de son accord transactionnel de 2011 avec la Guinée. Donc, une telle enquête pourrait faire éclabousser une bonne partie du gouvernement guinéen parce que certains éléments qui ont participé à la négociation avec Rio Tinto occupent aujourd'hui des positions assez importantes. Et nous savons aussi qu'il y a des cabinets d'avocats qui ont accompagné à la fois Rio Tinto et la Guinée qui pourraient probablement être au courant de certaines pratiques qu'on croit être répréhensibles par la loi aujourd'hui.
Comment cette affaire est-elle perçue à Conakry, notamment par le gouvernement?
J'avoue que je n'ai pas encore eu connaissance d'une déclaration officielle du gouvernement par rapport à l'évolution du dossier. Mais je sais que par le passé, quand il y a eu l'affaire de François de Combrès, le gouvernement avait décidé à travers un de ses communiqués de coopérer avec la justice, quelle que soit la nationalité, pour pouvoir éclaircir cette affaire.
Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette affaire, les résultats pourraient aboutir à la remise en cause de la procédure actuelle de l'attribution des marchés des mines?
Avec une telle enquête, on saura probablement que rien n'est confidentiel dans le business. Dit que tout peut arriver un jour à être à la place publique. Et tout ce qui concerne Rio Tinto entre 2011 et 2014 devrait être connu du président de la République des Guinées parce que je me rappelle, je revois encore les images en mémoire où il présidait la signature officielle de cet accord transactionnel. Cela m'amène à dire qu'il ne devrait pas ignorer tout ce qui s'est passé en dessous. Ça va bouleverser la stratégie du gouvernement. Pourquoi? Actuellement, Rio Tinto a décidé de se désengager du projet Simandou et de vendre ses actifs à Chinalco, qui est son partenaire dans le projet Simandou. L'ouverture de cette enquête au niveau du Royaume-Uni pourrait quand même amener les Chinois à s'éloigner davantage du projet Simandou. Et cette affaire pourrait, entre autres, bouleverser cette stratégie interne du gouvernement en matière de mise en valeur des ressources naturelles.
C'était le journaliste guinéen Akumba Diallo, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Comme tous les ans depuis 1947 en France, la ville d'Avignon accueille des artistes pour un mois de festivités. Cette année, le Festival d'Avignon a choisi de mettre en avant des artistes africains. Pour VO Afrique, Nastasia Petehi est allée à leur rencontre pour parler de la place de l'art en Afrique.
Acclamé par la foule, Sidi Borro et Salia Sanou sont enthousiastes. Les deux Burkinabés viennent de présenter leur chorégraphie à Avignon. Les danseurs sur scène sont issus de leur école au Burkina.
Quand on regarde un peu tout ce parcours-là pendant ces 20 années, on regarde que ceux qui sont en train de danser ce soir, par exemple, sont des gens qu'on a formés. Donc, ils sont issus de ce travail-là. Donc, on forme, par exemple, 25 danseurs pendant 3 années. Et aujourd'hui, revoir ces danseurs qu'on a formés sur le plateau qui prennent notre place, ben, je pense qu'on ne peut être que content par rapport à ça.
Seydou et Salia, ce sont deux pionniers de la danse contemporaine au Burkina Faso. Mais après 20 ans d'expérience, ils font toujours face à des difficultés énormes.
Voilà, l'économie de la danse, les pouvoirs publics nous soutiennent. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de soutien financier pour la création chorégraphique en Afrique. Bon, voilà, c'est pas le cas, mais quand même, les choses avancent.
La culture a du mal à se faire une place sur le continent. Après un coup d'État ou une guerre, c'est tout un monde culturel qui s'effondre. L'écrivain ivoirien Kofi Koulé en sait quelque chose. Il était sur les planches à Avignon pour présenter sa pièce de théâtre intitulée « Ézéchiel et les bruits de l'ombre ».
Actuellement, il faut dire qu'il est moribond parce qu'après la guerre civile, il y a mis un gros trou. Il faut que les choses reprennent. Ce n'est pas la culture qui a une priorité. Parce que la Côte d'Ivoire était un grand pays de théâtre pendant longtemps. Mais aujourd'hui, non, le théâtre renaît. Peut-être parce qu'on commence à avoir foi en la paix.
Pourtant, selon l'écrivain, les artistes ivoiriens talentueux ne manquent pas. Le problème est ailleurs.
Ce n'est pas faute d'artistes, parce que les artistes seuls, ça ne suffit pas. Il faut aussi des structures, des moyens, au moins des structures. Après, les moyens, on peut les trouver. Mais s'il n'y a pas de structure, quelle que soit la bonne volonté des artistes, rien ne peut se passer.
Le Congolais Julien Bissila croit en la force des écrivains dans son pays, même s'ils n'ont nulle part pour se former à l'écriture.
Il y a une pépinière, ils ont une folie de dingue. Moi, je ne croyais pas, je me disais avec tout ce qui se ferme, parce qu'il n'y a plus de salle, le CEFRAC, dont je vous parle, qui est en train de s'écrouler, qui a été le QG de De Gaulle. C'est le centre de formation et d'art dramatique, mais qui n'a pas lancé sa première promotion depuis 1946. Donc l'avenir du théâtre, c'est dans la rue, en fait.
Le théâtre africain a encore du mal à être reconnu mondialement. Pendant le Festival d'Avignon, aucun spectacle africain n'était étiqueté théâtre. C'est une sorte de catégorie à part. D'ailleurs, le dramaturge congolais Jean-Claude Bouda s'est insurgé sur sa page Facebook en ces termes « Inviter un continent, sans sa parole, c'est inviter un mort ».
Nastasia Petehi à Avignon pour VO Afrique.
VO Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Mountou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international news, éclat musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.